Vous êtes de passage à New York où vous avez évoqué lors d'une adresse au Conseil de sécurité aujourd'hui l'impasse dans le processus électoral. Cette impasse, elle est à quel niveau?
Je pense qu'il s'agit d'abord d'un problème d'organisation technique, mais aussi de confiance au sein de la classe politique. Une confiance mutuelle pour éventuellement discuter des questions de comment aller aux élections. De façon inévitable, il faut qu'ils y arrivent à mon avis, parce que il n'y a que les Congolais qui pourront régler ce problème. Sur le plan technique, évidemment, il y a un certain nombre de choses à faire, c'est-à-dire que, par exemple, la Commission électorale nationale indépendante a dit qu'il fallait 16 mois pour refaire le fichier électoral, y inclure les quelques 8 millions, je pense, de jeunes gens maintenant en âge de voter, expurger tout de la liste tous les morts, il doit en avoir pas mal également depuis 2011. Ou 2006 même, je pense, la dernière fois qu'ils ont vu leur fichier. Et aussi les militaires, les gens en uniforme qui ne devraient pas y être. Il y a une audite de l'OIF qui a demandé tout ça, de façon très claire. Ici a-t-elle. Mais bon, certains pensent que le délai est très long. Bon, mais encore une fois, je dis, ce problème serait réglé très facilement s'il s'asseyait. Et c'est pour ça que nous avons un facilitateur africain, la personne de l'ex-premier ministre Lemkojo, qui essaie d'amener tout le monde autour d'une table pour pouvoir avancer assez rapidement.
Ça, c'est au niveau technique. Est-ce qu'il y a d'autres impasses?
Non, bah, je pense que c'est lié. Enfin, tout n'est jamais purement technique. En fait, il y a un problème de confiance. Les gens se commercent, comme on dit, et puis au bout d'un moment, la confiance n'y est plus. Il y a une constitution qui dit que le président a deux mandats et s'en va après ces deux mandats. Il y a la faisabilité technique à temps de ces élections. Et c'est tout ça qui fait que, bon, qu'il y a un relent de méfiance entre les gens, au sein de la classe politique, qu'il faudra bien dépasser.
Comment décririez-vous l'atmosphère actuelle, justement, quelques mois avant le scrutin, dont vous pourriez rappeler la date, s'il vous plaît?
Les élections, normalement, c'est le 29 novembre 2016. Moi, ce qui m'inquiète le plus, ce n'est pas tellement, parce que je suppose que les Congolais sont assez matures pour se retrouver et décider des choses à faire. Ce qui m'inquiète, c'est les messages que les gens de partout envoient, qui n'est pas un message commun sur, disons, la volonté, par exemple, par certains de passer par certains relais pour avoir des jeunes gens dans la rue ou ceci ou cela. Je pense que c'est la responsabilité du gouvernement. Très rapidement de se mettre en rapport avec l'opposition pour en discuter, d'avoir un dialogue à travers le Premier ministre Kodjo, y compris avec la société civile, parce que moi je ne conçois pas de dialogue sans société civile, mais encore une fois c'est à eux de décider des phases, comment ils vont le faire, tout ça, le format, c'est purement congolais ça. Donc il faudrait qu'on fasse attention à ce qu'on n'ait pas de violence dans les villes en particulier. C'est un peu la crainte que tout le monde a. De façon diffuse, les gens en parlent, etc. Parce que si on parle de ville, au Congo, il n'y en a pas qu'une. Ce n'est pas que Kinshasa. Il y a Kananga, il y a Mbujima, il y a Lubumbashi, il y a Goma, il y a que sais-je encore. Il faut éviter qu'on en arrive là, parce que le Congo n'en a pas besoin. Il y a une partie du territoire, l'Est, où avec les forces armées du Congo, nous luttons contre les forces armées illégales, parfois étrangères, parfois locales. Il faut les neutraliser pour protéger les civils. Ça, à moi, c'est ma préoccupation première. C'est la préoccupation du gouvernement, je le sais, parce que moi, je vois les forces armées congolaises se battre. Ça, les gens ne le savent pas assez. C'est beaucoup plus eux qui meurent que nous. Il faut le dire aussi. Donc, c'est ça ma préoccupation. Donc, il faut aussi que la classe politique dans son ensemble se rende compte que, oui, il faut aller aux élections précisément pour mettre fin à tout ça. Mais c'est pour ça qu'il faut que nous parlions. C'est pour ça que nous trouvions des fois des formules pour que la loi soit respectée, mais pour que ça se fasse bien aussi. Pour que nous ne retournions pas aux violences de 2006 et 2011, parce qu'on a eu des violences à l'époque.
Est-ce que selon vous, justement, ce manque de dialogue est l'obstacle majeur à un bon déroulement d'élections éventuellement?
C'est l'obstacle majeur pour se mettre d'accord sur des dates, sur un fichier électoral clair et net, sur la sécurisation des élections. Encore bon, on est tous là pour ça. Sur le financement, s'il y a des problèmes, évidemment, moi, si je suis opposant, je dis, mais le gouvernement est tout ce temps pour financer, pourquoi il nous demande ça? Mais la réalité est là, c'est que le gouvernement dit qu'il y a des problèmes par rapport à ça. Donc il faut en parler, et on n'en parle pas sans témoin. On en parle avec un facilitateur de l'Union africaine, les Nations unies seront là, et d'autres acteurs internationaux, tous les partenaires vont observer.
Alors justement, quel type de soutien apporte la MONUSCO?
Au niveau des élections?
au niveau des élections.
Ben, écoutez, nous avons demandé au Conseil de sécurité, le Conseil de sécurité décidera, que nous fournissions un soutien technique à la CENI en particulier, à travers le PNUD, à travers un certain nombre de mécanismes, mais aussi un soutien logistique. Parce que lorsque les milliers et des milliers de kits viendront dans le pays, il faudra bien que quelqu'un les transporte pour aller vers les électeurs et faire l'enrôlement et tout ça. Et la MONUSCO a quelques moyens pour faire ça, c'est sûr, mais même la MONUSCO aura besoin de plus de soutien pour le faire. En 2006 ou 2011, il a fallu demander à l'Angola, à l'Afrique du Sud et au Congo, au Brazzaville, d'aider avec cela. Donc nous serons là pour cela également cette fois-ci. Je pense que je n'ai pas raison de penser que le Conseil de sécurité ne va pas l'accorder. L'une des tâches essentielles que nous avons, c'est nous assurer que la RDC va vers les élections apaisées, bien organisées, pour davantage renforcer la paix et pour faire le travail nécessaire de protection des populations à l'Est. Je pense que les élections apaisées, bien organisées, contribueront immensément à une stabilisation plus grande du Congo.
Autre thème, la collaboration entre les forces de la MONUSCO et l'armée congolaise. Où en êtes-vous? Est-ce que cette collaboration s'améliore petit à petit?
Non seulement elle s'améliore, parce que les gens en uniforme, ils ne sont pas comme vous et moi. Hein, c'est des camarades d'armes. Ils se donnent la main et puis se mettent d'accord, ils planifient ensemble. On est à cette phase-là, la planification qui est quasiment terminée. Maintenant, il reste à commencer les opérations, effectivement, à se battre, nous en soutien de la FRDC, pour combattre les forces démocratiques alliées, comme ils s'appellent, là, les gens qui tuent des femmes et des enfants à l'extrême nord-est de la frontière avec l'Ouganda, avec les fronts démocratiques libération du Rwanda. Ça a des noms très jolis, ces groupes-là, mais c'est des groupes criminels. Donc, les opérations vont commencer incessamment, je peux vous le dire. Mais ce n'est pas à moi de le dire, c'est réellement aux autorités locales de le dire, quand exactement. Mais nous sommes prêts, la collaboration est bonne, notre soutien est franc et sérieux. Et je pense que l'ordre a déjà été donné pour la reprise des opérations, ce qui est une bonne chose également. J'ai 4 mois au Congo, mais je peux voir la différence dans nos relations. La relation entre les forces armées du Congo et la force de la MONUSCO. J'étais surpris de voir l'autre jour, depuis 2009, il n'y avait pas de visite d'un officier supérieur congolais au siège de la MONUSCO à Kinshasa. L'autre jour, j'ai été surpris de voir l'un des hauts gradés de l'armée venir fraterniser avec le nouveau commandant en chef de la force de la MONUSCO. Les choses vont bien, je pense qu'on est sur le bon chemin. Là.
Et alors toujours, vous avez évoqué certains des problèmes dans l'est du Congo. Quels sont vraiment les problèmes majeurs, considérant qu'il y a quand même plusieurs pays frontaliers? Donc, vous avez évoqué certains des groupes rebelles, mais quels sont les problèmes majeurs auxquels vous êtes confrontés?
D'abord, c'est la protection des populations. C'est-à-dire que, vous savez, c'est quand même une zone assez difficile. Il y a beaucoup de forêts, il y a des monts, il y a beaucoup d'eau. C'est un terrain pas facile.
Ce sont des frontières poreuses?
Les frontières sont poreuses, la frontière avec l'Ouganda est poreuse, même la frontière avec le Burundi, parce que le Burundi est juste à côté aussi, évidemment, la frontière avec le Rwanda. Ne parlons pas de la frontière avec la Centrafrique, il y a la LRA qui essaie de montrer le bout de son nez encore. Et c'est un pays qui a 9 frontières, c'est un pays continent aussi, ou sous-continent. Donc il y a des problèmes à ce niveau-là. La deuxième chose, je pense, toute la question des tensions ethniques que nous voyons maintenant. Et évidemment, les forces négatives jouent là-dessus, favorisent ça. Alors, moi, je suis Hutu congolais, par exemple. Quelqu'un du FDLR vient et fait des choses, et ensuite, ça se retourne contre moi. Ou alors, à cause des problèmes de terre, parce qu'il y a des problèmes de terre, de pression sur la terre, des problèmes de droits coutumiers, etc. Il y a plein de choses qui, en temps normal, se règlent entre voisins. Mais avec la présence des forces négatives, il y a de la manipulation, il y a une volonté certaine de faire en sorte que qu'il y ait encore plus de remous, qu'il y ait même des tueries. En plus là, vous avez aussi certainement, très certainement, c'est pas un secret, des trafics illégaux de minerais et autres à travers les frontières. Mais ça, c'est au groupe d'experts aussi des Nations Unies de regarder de plus près là-dessus et de nous informer ou d'échanger l'information avec nous. C'est aussi aux pays voisins de faire leur part de travail. La région des Grands Lacs a signé des accords à Nairobi et tout ça, etc. Vous le savez très bien. Je pense qu'il est bon que ces pays, de façon beaucoup plus soutenue, se retrouvent et se parlent et trouvent des solutions aussi au problème du Congo, parce qu'il n'y a pas de problème, il n'y a pas de solution au problème du Congo, il n'y a pas de solution pour la région, c'est pas compliqué, c'est très simple, regardez la carte, quelqu'un a dit que c'était une gâchette qui vise toute l'Afrique, mais c'est aussi un pays trésor qui pourrait fournir l'électricité à toute l'Afrique, à commencer par la région, dont les minerais pourraient servir là plutôt qu'ailleurs, etc., etc. Donc il y a aussi ce travail-là à faire. Nous travaillons beaucoup avec notre collègue Saïd Djinit, qui est l'envoyé spécial pour la région des Grands Lacs, qui ne ménage pas ses efforts, qui vient d'organiser avec le gouvernement congolais une conférence réussie sur les investissements au Congo, où tous les pays de la région étaient représentés au niveau des premiers ministres, même pour la plupart. C'était extraordinaire. Donc il y a tout ça à faire. Oublier que nous avons les problèmes que nous avons. Travailler ensemble sur la porosité des frontières pour ensemble combattre les forces négatives et marcher vers le travail de développement qui nous attend tous. C'est ça que moi, s'il y avait un message à passer, je passerais à cette région-là. Mais enfin, qui suis-je? Ils le savent mieux que moi.
Ma toute dernière question en français que j'ajoute. Vous avez mentionné les pays frontaliers. Il s'avère que certains des pays de cette sous-région vont aller aux urnes ou sont même déjà allés aux urnes. Pensez-vous que cela risque d'avoir une incidence au niveau de la RDC?
Non, je pense que chaque pays a sa particularité. L'Ouganda, c'est l'Ouganda, c'est le même président depuis un certain temps. Nous connaissons l'histoire du Rwanda, qui sort d'un génocide qu'on ne peut pas décrire, qui est le crime le plus ignoble que l'humanité ait connu. Le Congo, c'est le Congo, Brazzaville. Je pense que vous faites allusion à ces pays-là en particulier. Chaque pays a sa particularité. Le Congo, RDC, a connu quand ça va être la troisième élection bientôt. 2006, ça s'est passé, il y a eu quelques échauffourées, il y a eu des choses. 2011 aussi, il y a eu des choses. Donc il faut tirer des leçons et avancer. On ne peut pas comparer ça à un pays qui est beaucoup plus petit, de l'autre côté du fleuve, c'est différent. Chaque pays a son histoire, sa particularité, mais une chose essentielle, c'est que l'aspiration à la démocratie des peuples partout est le même. Et nous accompagnons cela.